9h en temps universel, 11h ici à Paris, vous écoutez RFI. Le journal international, c'est en compagnie de Sophie Pouzerat. Bonjour Sophie.
Bonjour Namoury, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, 10 morts dans une nouvelle frappe israélienne dans la bande de Gaza cette nuit, un mois jour pour jour après la reprise de l'offensive dans l'enclave, alors que de nombreux soignants palestiniens sont eux enfermés et même torturés dans les prisons israéliennes. Giorgia Meloni s'apprête à recevoir le vice-président américain J.D. Vance. La chef du gouvernement italien revient elle-même d'une visite à Washington pour tenter de réconcilier Donald Trump et l'Union européenne sur la question des droits de douane. On reviendra sur cette rencontre entre les deux dirigeants. À la une également au Sénégal, après les révélations de la Cour des comptes dans l'affaire du fonds de Covid-19, 5 anciens ministres de Macky Sall pourraient être poursuivis pour détournement de deniers publics. Les bombardements israéliens meurtriers continuent dans la bande de Gaza, un mois jour pour jour après la reprise de l'offensive de l'État hébreu. L'un d'entre eux a fait 10 morts, tous membres d'une même famille, près de Khan Younes, dans le sud de l'enclave. C'est la défense civile palestinienne qui l'a annoncé ce matin. Hier, elle faisait état d'au moins 40 morts dans un raid sur le territoire. En parallèle, l'inquiétude demeure autour du sort du docteur Oussam Abou Safia, directeur d'un hôpital dans le nord de l'enclave. Ce pédiatre a été arrêté en décembre dernier. Il a refusé de quitter son poste et avait multiplié les appels à sauver l'établissement sur les réseaux sociaux. Une détresse largement relayée dans les médias du monde entier. Aujourd'hui, Amnesty International alerte sur son sort, comme celui de dizaines de soignants palestiniens détenus et torturés dans les prisons israéliennes. Amira Swilem.
Un homme s'avance dans les décombres de Gaza. Face à lui, deux tanks de l'armée israélienne. Le docteur Oussam Abou Safia est arrêté quelques instants après. Cette image a fait le tour du monde. Près de 4 mois plus tard, les nouvelles ne sont pas bonnes, selon Boudour Hassan, d'Amnesty International.
Le docteur Oussam a été interrogé principalement sur le fait qu'il a prétendument soigné des otages et qu'il sait où ils sont. C'est quelque chose qu'il ne reconnaît pas. Le docteur Oussam a démenti tout lien ou contact avec un quelconque groupe armé, alors qu'Israël tente de faire croire qu'il en a un. Le docteur Oussam est un pédiatre très connu à Gaza. Il y faisait seulement son travail.
Le docteur Oussam Abou Safia a confié à son avocat avoir été torturé, affamé, battu. Son cas n'en est qu'un parmi tant d'autres, rappelle Boudour Hassan.
Le personnel médical est torturé de façon spécifique parce qu'il opère dans le secteur de la santé. Plusieurs médecins et employés du secteur nous ont dit qu'on leur a clairement demandé s'ils étaient médecins et que le fait de répondre par l'affirmative a fait redoubler les coups.
Selon l'ONG, au moins 184 médecins et infirmiers de Gaza sont détenus ou portés disparus depuis le 7 octobre 2023. Amira Swilem, Ramallah, RFI.
Et dans ce contexte, le Hamas dénonce une agression flagrante au Yémen où des frappes ont causé la mort de 38 personnes, dont des secouristes, et fait une centaine de blessés, selon un nouveau bilan des rebelles houthis alliés du mouvement islamiste palestinien. L'armée américaine revendique des bombardements sur le port pétrolier de Ras Issa en mer Rouge, des raids qui ont abouti à la destruction du port, source économique du pouvoir des houthis, selon les États-Unis. 2 morts et au moins 40 blessés cette nuit dans des nouvelles frappes russes en Ukraine. Elles ont visé le nord-est du pays, notamment les villes de Kharkiv et Soumy, selon les autorités ukrainiennes. Ces frappes ont lieu au lendemain de la réunion entre Européens, Ukrainiens et Américains, hier à Paris. Une réunion avec une question, comment ramener la paix? Pour le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, il faut trancher dans les prochains jours, car les États-Unis ont d'autres priorités. C'est ce qu'il a déclaré ce matin avant de quitter Paris. En parallèle, son collègue à l'exécutif américain, le vice-président J.D. Vance, est arrivé, lui, sur le continent européen, à Rome, en Italie plus précisément. Il doit rencontrer la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni. J.D. Vance fait donc le match retour, puisqu'hier, c'était Giorgia Meloni qui était à Washington pour une entrevue à la Maison-Blanche avec Donald Trump. Elle était la première dirigeante européenne à s'y rendre depuis le début de la guerre tarifaire lancée par le président américain. Giorgia Meloni s'est présentée comme l'ambassadrice des pays de l'Union européenne. Elle a tout fait pour calmer le jeu et ça a plu à Donald Trump. Depuis New York, les précisions de Karine Houten.
Dans le bureau ovale, Donald Trump a dit qu'il était sûr à 100% qu'il y aurait un accord avec l'Union européenne d'ici la fin de la pause de 90 jours sur les taxes. Il n'a pas donné plus de détails. Ceci dit, Giorgia Meloni savait que sur le papier, elle arrivait avec des atouts à la Maison Blanche. C'est une amie de Donald Trump, invitée à Mar-a-Lago ou à l'investiture en janvier dernier. Elle l'a même conviée à venir visiter Rome. Mais ses droits de douane ne sont pas bons pour l'Europe, qui fait 1,6 trillion d'euros d'échanges avec les États-Unis par an, pour l'Italie non plus. Alors elle a caressé le président américain dans le sens du poil. Elle a souligné leur projet de civilisation commun et a même repris son slogan en l'adaptant un peu : Make the West great again.
Il ne s'agit pas seulement de l'Italie, mais de toute l'Europe. Nos échanges sont très importants et même si nous avons quelques problèmes entre les deux rives de l'Atlantique, il est temps de trouver des solutions. Mon objectif est de redonner à l'Occident sa grandeur.
Donald Trump s'est montré satisfait de l'entretien, même s'il a dit à la presse américaine qu'il n'était en aucun cas pressé de revenir sur cette hausse des taxes douanières. Karine Auton, New York, RFI.
RFI, 9h et presque 6 minutes en temps universel. Et à Dakar, au Sénégal, où 5 anciens ministres du régime de Macky Sall pourraient être poursuivis pour détournement de deniers publics dans le cadre de leur implication dans la gestion du fonds Covid-19. C'est le nom donné à ce fonds de riposte à la pandémie pour lequel la Cour des comptes avait relevé une série de fautes de gestion présumées en décembre 2022. À Dakar, les explications de Léa Lisa Westerhoff.
De graves présomptions de prévarication, comprenez de détournement de deniers publics, pèsent sur ces 5 anciens ministres, a affirmé le procureur de la République près de la Cour d'appel de Dakar hier. Sans vouloir révéler l'identité de ses hauts responsables, Mbacké Fall a expliqué avoir transmis leur dossier à l'Assemblée nationale pour qu'elle décide de leur poursuite ou non devant la Haute Cour de justice.
C'est une procédure vraiment qui est exceptionnelle, c'est la Haute Cour de justice. Tous les ministres qui ont agi et commis dans l'exercice de leurs fonctions des infractions sont justiciables de cette Haute Cour de justice.
En dehors de ces 5 anciens ministres, 27 personnes ont été inculpées depuis le début de la semaine pour des malversations présumées dans l'utilisation des financements spéciaux dédiés à la riposte contre le coronavirus entre 2020 et 2021. Parmi elles, des dizaines de personnalités publiques et de hauts fonctionnaires du secteur de la santé. Mais pour le procureur de la République, Ibrahim Ndoye, ce n'est qu'un début.
Les recherches se poursuivent pour l'identification de tous les individus, toutes les personnalités, à quel niveau qu'elles se situent ces personnalités, pour pouvoir les installer et espérer encore une fois procéder au recouvrement de ces deniers injustement, illégalement et indignement spoliés au peuple sénégalais.
L'ouverture de procédures judiciaires était très attendue des Sénégalais, choqués par les nombreux cas de surfacturation relevés fin 2022 par la Cour des comptes, comme ceux de gel hydroalcoolique par exemple, ou encore du riz, acheté 2,7 milliards de francs CFA plus cher que son prix réel. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et toujours dans l'actualité du continent africain, en Côte d'Ivoire, le PDCI a désigné Tidjane Thiam candidat à la présidentielle du 25 octobre prochain. Plébiscité à l'issue d'une convention élective dont les résultats ont été annoncés hier, Tidjane Thiam, candidat unique, a obtenu 99,5% des voix. L'ancien ministre et banquier international n'est toujours pas rentré en Côte d'Ivoire, lui qui a été absent du pays pendant plus de 20 ans. Et dans ce contexte, la candidature de Tidjane Thiam à la présidentielle suscite des interrogations. Il est notamment bousculé par une polémique sur sa nationalité qui pourrait le fragiliser pendant sa course à la présidence. Retour sur l'actualité aux États-Unis, mais en zoomant sur Google, cette fois qui risque de se faire taper sur les doigts par la justice. Une juge fédérale accuse le géant du net d'avoir monopolisé le marché de la publicité sur Internet. Il aurait, je cite, « sciemment entrepris une série d'actions anti-concurrentielles et causé des dommages importants à ses clients ». Résultat, Google est reconnu coupable et cette décision de la justice, elle ouvre la voie à des sanctions. Écoutez les précisions de Julien Pillot et les spécialistes de la régulation numérique.
On a une décision de justice aujourd'hui qui acte le fait que Google s'est rendu coupable d'un abus de position dominante qui est sanctionnable au titre de l'antitrust. On attend dans les prochains jours la nature des sanctions qui vont être prononcées à l'encontre de Google. Celle-ci, elle peut être pécuniaire, mais elle peut être également assortie de ce qu'on appelle des remèdes comportementaux qui pourraient finalement obliger Google de se comporter d'une certaine façon. En fait, d'avoir une action sur la stratégie de Google. Et puis, ce qui est aussi possible et peut-être même probable en la matière, c'est de demander à Google de vendre une partie de ses activités. Et ça, ce serait une décision qui serait assez historique parce que des décisions de démantèlement aux États-Unis, qu'on n'a pas vu depuis 1982. Et on sait que le président Donald Trump s'est publiquement prononcé contre un éventuel démantèlement de ces champions américains, notamment dans le domaine numérique, et donc notamment Google.
Des propos recueillis par Altine Lazage et Google, qui annonce qu'il va faire appel de cette décision. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain tour du monde de l'info dans un peu moins d'une heure.